Les cours du Collège de France, Stéphane Malla, chaire Sciences des données.
Bonjour à tous, donc bonne année. Je vais commencer un peu par les nouvelles de l'année d'ailleurs. C'est, comme vous le savez, toujours impressionnant à quelle vitesse ce domaine se développe. Franchement, j'ai jamais vu ça. En recherche, il y a une accumulation non seulement de financements, mais de chercheurs brillants et de conférences qui fait que le domaine avance à une vitesse très impressionnante. Alors, cette année, ça a été marqué notamment par deux prix Nobel. Il y en a un qui correspond à AlphaFold de DeepMind, qui est vraiment une réalisation très impressionnante, qui consiste à apprendre à partir d'une séquence aminée la structure tridimensionnelle des protéines, ce qui était un vieux problème, et on ne pensait pas qu'à partir de bases de données, on pouvait apprendre comme ça, avec une telle précision, la structure simplement à partir d'une séquence. Et les conséquences de ça sont évidemment très importantes, sont importantes à la fois pour identifier, par exemple, le mécanisme de maladie, quand vous avez des repliements qui sont anormaux, qui provoquent des défauts sur les fonctions de ces protéines. C'est important évidemment aussi pour la découverte de médicaments, mais de façon générale pour la recherche fondamentale. Donc ça, c'est un très beau prix Nobel. Le deuxième prix Nobel a été une grande surprise pour beaucoup de gens, notamment en physique. C'est le prix Nobel de physique pour Hinton et Hopfield. Alors Hinton, vous savez, a eu un impact vraiment impressionnant sur le domaine dans beaucoup de travaux, à la fois évidemment pour la backpropagation, qui est l'algorithme de base d'apprentissage des réseaux de neurones, mais surtout pour tous ces travaux sur l'architecture, les architectures profondes et aussi les machines de Boltzmann, et puis aussi pour Hopfield. Donc le prix Nobel a été donné conjointement. Ça a été quand même une surprise parce que les réseaux de Hopfield, les mémoires de Hopfield sont finalement pas quelque chose qui sont tellement utilisés, qui ont eu tellement une telle impact. Ce que surtout ce travail a fait, ça a été le lien entre la physique statistique qui a été établie et tout le domaine de machine learning. Donc ça a été effectivement quelque chose de fondamental. Et ça, on va le voir, y compris dans ce cours, constamment on se place sur des modèles physiques et il y a un lien très profond entre les modèles de machine learning et les modèles de physique. Donc il n'y a pas eu une telle impact, mais en soi, malgré tout, ce lien a été quand même très important. Alors, l'évolution du domaine, notamment cette dernière année, d'abord sur les modèles de langage. Les modèles de langage, donc maintenant c'est vieux, ça date de 3 ans à peu près, en tout cas les grands modèles de langage, donc à l'échelle du machine learning, ça commence à devenir vieux. Un point qui est vraiment intéressant, qui s'est passé cette dernière année, ça a été le développement des systèmes de preuves et notamment de la performance mathématique des algorithmes à base de modèles de langage. Alors ça, c'est un développement qui est vraiment intéressant parce que c'est le résultat d'un croisement de deux approches. D'un côté, l'approche par induction, qui est l'approche classique de machine learning, donc à partir de données, et c'est comme ça que fonctionnent les grands modèles de langage. Et de l'autre côté, une approche plus déductive, que sont les systèmes de vérification de preuves informatiques avec des langages comme Lean ou comme Coq, où vous avez d'un côté donc une production de preuves qui est faite par le LLM, le grand modèle de langage, et de l'autre côté, un apprentissage par renforcement qui est garanti par le système de vérification de preuves. Et donc, cette double approche, c'est un peu, si vous voulez, une analogie comme si le système de vérification était une forme de conscience déductive qui regardait ce qu'avait fait la partie inconsciente qui correspondrait au LLM, qui est l'énorme réseau de neurones. Mais le fait est, c'est que les stratégies de preuve se sont considérablement améliorées. Donc maintenant, Il y a des LLM couplés à des vérifications de preuves qui sont à proche de la médaille d'or des Olympiades internationales. Ils ont eu la médaille d'argent, pas très loin de la médaille d'or. La médaille d'or arrivera probablement dans quelques semaines. Donc ça, c'est un domaine qui bouge très vite et qui est vraiment intéressant. Un autre domaine qui est vraiment intéressant, qui est en train de se développer à toute vitesse, c'est la robotique. Alors la robotique, c'est... De mon point de vue, probablement la grande révolution qui va arriver après les LLM. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à avoir des systèmes automatiques qui acquièrent de l'information absolument partout, qui est ramenée, ça veut dire que la source d'information, ce n'est plus exclusivement Internet de l'information textuelle, mais toutes sortes de senseurs, pas forcément vision, audio, et ça peut être électrocardiogramme, toutes sortes de senseurs, et vous allez avoir une masse considérable d'informations de type très différentes qui vont arriver vers ces systèmes d'interprétation. Alors, il y a une grosse difficulté qui est derrière la robotique, c'est que pour faire des systèmes de contrôle sophistiqués, par exemple de l'appréhension, marcher sur des terrains compliqués, etc., eh bien, il faut beaucoup... d'informations d'une certaine manière labellisées, qui permettent d'établir ce contrôle. Et pour faire ça, en fait, on ne peut pas simplement envoyer un robot et apprendre, parce que actuellement, la quantité de données qu'il faut pour l'apprentissage est beaucoup trop grande. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, quelle est la stratégie qui est adoptée ? C'est une stratégie où on plonge ces systèmes de robotique à l'intérieur d'un environnement simulé. Et donc, pour ça, il faut être capable de simuler la physique d'un environnement complexe de façon très précise. Et on retombe à nouveau sur les problématiques de génération par IA. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir faire des systèmes de robotique actuellement, être capable de maîtriser la simulation, la génération pour entraîner ces systèmes. Et donc, on arrive au troisième domaine qui, pour moi, a été quand même aussi assez marquant cette année, c'est les systèmes de simulation et de prédiction en physique, notamment pour la météorologie. Ça, c'est évidemment un problème fondamental, aussi bien la météorologie que la climatologie. On a vu des très grosses améliorations. Donc maintenant, vous avez des systèmes comme GraphCast qui a été produit par DeepMind, GenCast qui est un système... Donc GraphCast fonctionne sur une prédiction à 10 jours et avec des résultats qui sont tout à fait compétitifs, voire parfois un peu meilleurs, par rapport à des systèmes plus classiques basés sur des simulations de DP de type Navier-Stokes avec l'assimilation de données. Vous avez GenCast, qui est un système probabiliste qui va vous simuler sur à peu près 15 jours des prédictions potentielles avec des techniques qui sont proches ou qui sont d'ailleurs basées sur le type d'algorithme qu'on va décrire dans le cours cette année. Et puis il y a d'autres approches qui vont plutôt mélanger à la fois les contraintes physiques et les contraintes, obtenues par apprentissage à partir de données, comme Neural GCM. Donc ça a été fait par Google. Et ce que vous voyez, et puis il y a aussi une solution chinoise, c'est que tous ces systèmes sont actuellement essentiellement produits par des sociétés privées. Pourquoi ? Parce qu'il faut énormément de capacité calcul. Donc ça, c'est aussi un des enjeux de la recherche académique, c'est d'être capable de suivre avec une capacité calcul qui est à la hauteur pour pouvoir développer des systèmes de ce style. Voilà, donc ça, c'est un peu un parcours de ce qui s'est passé. Bon, il y a bien d'autres choses qui se sont passées, mais en tout cas, les aspects qui m'ont frappé au cours de cette année. Et ce que vous voyez, c'est que à nouveau, tous les aspects génératifs sont vraiment au cœur de toutes ces avancées. Donc ça va être le sujet du cours, la génération de données par transport et débruitage. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner une espèce de résumé du cours tel que j'espère que je pourrai le mener à travers les 8 séances, en vous donnant aussi des informations sur les séminaires. Mais c'est un peu la ligne directrice que je voudrais vous transmettre là aujourd'hui. Donc, la génération de données en IA, donc c'est évidemment de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire qu'on va construire des modèles à partir de données. Alors, juste pour rapidement vous rappeler, en apprentissage statistique, vous avez typiquement les problèmes supervisés. Donc, les problèmes supervisés sont les problèmes où vous avez une donnée X et vous voulez estimer la réponse à une question. La réponse Y à partir de données qu'on va toujours ici dans le cours appeler X, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être des champs physiques, etc. Donc dans ce cas-là, l'approche, c'est qu'on a une base de données d'entraînement, et la base de données d'entraînement, elle va être donnée par des données supervisées qui sont des couples à la fois de données pour lesquelles vous connaissez la bonne réponse Y et vous avez ainsi N données. Donc la difficulté évidemment c'est qu'il faut des données labellisées, c'est-à-dire qu'il faut suffisamment de données pour lesquelles on connaît la réponse. Alors ça c'est les problèmes supervisés et j'en reparlerai tout à la fin de cette séance parce que les challenges que je vous demanderai de faire appartiennent à cette catégorie, et ce sera les challenges qui seront présentés notamment pendant la première séance, juste après le cours de séminaire. Et ce qu'on va plutôt faire au cours de ces 8 séances, c'est une étude sur la génération, et la génération, c'est des problèmes non supervisés. Donc, les problèmes non supervisés, ça consiste à construire un modèle des données. Donc, un modèle des données X. Et ce modèle, il va être sous forme d'une distribution de probabilité qui va essentiellement nous dire où sont concentrées les données dans notre espace. Donc systématiquement, on va avoir des données qui appartiennent à un espace de grande dimension, D est grand, donc pensez à nouveau X, par exemple, comme étant une image. Alors à ce moment-là, D, ça va être typiquement 1000 sur 1000, typiquement, ça va être plus grand qu'un million. Donc on est vraiment en très grande dimension, chacune des coordonnées étant la valeur du pixel de X. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est dans cet espace de très grande dimension, voir où sont concentrées les données qui correspondent, par exemple, à des images médicales, à des visages, à des configurations tridimensionnelles d'une protéine, etc. Et donc, pour faire ça, on va faire ça à partir d'exemples. Et donc, l'entraînement, ça va être des exemples XI pour lesquels, évidemment, je n'ai pas de label ici. Ce qui nous intéresse, c'est simplement la distribution de ces données. Alors, il y a une hypothèse fondamentale qu'on fait tout le temps en machine learning, c'est que les XI sont des réalisations de variables aléatoires qui sont indépendantes et identiquement distribué. Autrement dit, chacun des XI sont des échantillons de la distribution de probabilité P de X. D'accord ? Donc vous avez des échantillons indépendants de variables aléatoires ou de vecteurs aléatoires qui sont distribués selon la distribution qui est ici P de X. Alors, à l'intérieur des problèmes non supervisés, vous avez ce qu'on appelle aussi les self-supervised en anglais, auto-supervisés. Alors, les problèmes auto-supervisés, c'est notamment la stratégie qui est utilisée par les LLM, qui va consister à définir des labels YI à partir des XI. Autrement dit, les labels dépendent des données. Par exemple, vous avez une séquence, vous faites un masquage, et ce que vous voulez, c'est prédire la valeur de la séquence suivante. Dans une phrase, c'est le mot suivant. Dans une image, ça peut être vous masquez une partie de l'image, vous voulez prédire la partie masquée, etc. Donc ça, ce sont des techniques qui permettent de définir des labels à partir des données. Et donc à ce moment-là, on est non supervisé parce que la seule chose qu'on a, c'est le XI. Et on verra que ce genre de stratégie, ça permet notamment de pouvoir calculer la distribution de probabilité. Alors, ça veut dire quoi et quelle est la difficulté? Pourquoi est-ce que ce problème qui est vieux comme les statistiques, tout d'un coup, est en train d'exploser avec l'intelligence artificielle? Alors, déjà, il faut comprendre pourquoi le problème est vraiment très difficile. Donc, qu'est-ce que on va essayer de faire? On a des données qui sont donc en très grande dimension. Et puis, à l'intérieur de l'espace en très grande dimension, on va essayer de voir où se trouvent les données, où est-ce qu'elles sont concentrées et quel genre de distribution elles peuvent avoir à l'intérieur de l'espace. Alors, une des hypothèses qui rendrait le problème très simple, ce serait si, au fond, les données appartenaient à un espace de très basse dimension à l'intérieur de cet espace de très grande dimension. Par exemple, ça peut être le cas en robotique, où vous avez un système rigide, donc le nombre de points de ce système est absolument potentiellement énorme, suivant la manière dont vous le digitalisez, mais le nombre de degrés de liberté du système peut être simplement défini par les quelques joints du robot, auquel cas vous allez avoir sur un système rigide comme ça peut-être une dizaine ou une vingtaine de degrés de liberté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez l'ensemble des points et la manière dont ils bougent sur ce robot rigide, eh bien ça va dépendre d'une variété de dimension 8 ou 10. Donc finalement le problème il n'est pas aussi difficile que ça. Le type de problème qu'on va regarder n'est pas du tout de cette nature. Quand vous prenez une image, vous avez de la texture, comme par exemple regarder la texture du bois par terre ou au-dessus de vous, ou vous avez des voisins avec des cheveux, etc. Tout ça, ça peut bouger dans tous les sens. Le nombre de degrés de liberté est absolument énorme. Alors, il est peut-être pas, il n'est pas égal au nombre de pixels, il est un peu plus petit, mais vous avez plus d'un million de pixels, vous allez typiquement avoir un nombre de degrés de liberté qui va être en plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs milliers. Donc, ça veut dire que vous allez malgré tout appartenir à une variété de grande dimension. Et si on appartient à une variété de grande dimension, bah, a priori, on va se retrouver face à la malédiction de la grande dimension dont je vais parler immédiatement. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est la distribution de probabilité P de X. Donc, X peut appartenir à un grand espace, mais P de X, ça peut être quelque chose de très régulier. Prenez par exemple le cas le plus simple, qui est un bruit blanc. D'accord ? Si vous prenez un bruit blanc gaussien, ben un bruit blanc gaussien, sa distribution de probabilité, c'est e puissance moins norme de x carré sur 2 sigma carré, et puis vous avez une constante de renormalisation pour que l'intégrale fasse 1, c'est 2 pi d carré, sigma carré, à la puissance d sur 2. Bon, ben, cette distribution de probabilité, elle vous dit quoi? Elle vous dit que la distribution norme de x carré avec la loi des grands nombres, on peut vérifier, va essentiellement se concentrer sur une boule dont le rayon est proche de sigma. Et donc, vous allez avoir tous vos échantillons qui vont essentiellement se concentrer sur cette boule avec une probabilité qui va être proche de 1. La boule, elle est de dimension d-1 dans un espace de dimension d. Donc la boule, c'est un objet de très grande dimension. Et pourtant, cette distribution, elle est très simple parce qu'elle est essentiellement paramétrée par une variable qui est la variance. D'accord ? Et c'est ça qu'on va aller chercher. On ne va pas rêver d'avoir des données qui sont très simples, qui peuvent se décrire comme un point en très basse dimension. Ce qu'on va aller chercher, c'est leur distribution, d'une certaine manière la régularité, si vous voulez le voir en termes déterministes, de la variété sous-jacente, et donc le nombre de paramètres qui va permettre de la caractériser. Dans le cas d'un processus gaussien, un bruit blanc, là c'est sigma, ça peut être la covariance, donc toute une matrice, si vous avez une distribution qui est ellipsoïde, etc. Et donc la question, c'est quel genre de paramétrisation on va pouvoir faire pour effectivement réussir à attaquer ce problème. Évidemment, cette paramétrisation, il va falloir l'apprendre à partir des exemples. Alors, quelle est la difficulté? La difficulté, c'est cette fameuse malédiction de la dimensionnalité. Donc, la difficulté, c'est que, imaginez que vous preniez une hypothèse qui soit assez simple sur P de X, assez pauvre. Par exemple, vous imposez simplement que P est Lipschitz. Lipschitz, ça veut essentiellement dire qu'elle est dérivable presque partout. Donc, ça veut dire que si vous regardez l'incrément entre P de X en un point X et un point X', ça va être typiquement plus petit à une constante près de la distance entre X moins X'. Donc, quand x tend vers x', p de x va tendre vers p de x'. Autrement dit, p de x, c'est quand même une fonction qui est bien régulière. D'accord? Est-ce que ça, c'est suffisant pour pouvoir estimer p de x? Bah, essentiellement, si c'est ça simplement l'hypothèse que vous avez, c'est donc que vous avez une fonction qui est régulière. Donc, si vous imposez, par exemple, que x appartient à 0,1 au carré, donc puissance d, pardon, vous êtes en dimension d, donc je vais prendre ici d égale 2 pour l'illustrer, donc vous savez que x est dans votre domaine comme ça, vous avez besoin, tout ce que vous savez c'est que c'est régulier, donc vous avez besoin d'estimer x quasiment en tout point. Alors, pas exactement en tout point, vous pouvez discrétiser votre surface p de x avec une précision epsilon. Et donc, dans ce cas-là, il va vous falloir calculer la valeur de P de X dans tous ces points à une distance epsilon. OK, donc comment on va faire ça? Si vous avez des exemples, ce que vous allez faire, par exemple, quelque chose d'assez simple, c'est des histogrammes, c'est-à-dire vous allez diviser votre domaine en petits carrés, comme ça, de taille epsilon, vous allez regarder les xi qui tombent dans chacune des boîtes, vous allez compter le nombre de xi qui tombent dans chacune des boîtes, et ça va vous donner une estimation de la probabilité pour que x ait une certaine valeur ici. Tout bêtement, un histogramme. OK, donc combien de données il vous faut pour faire ça? Le nombre de données, il va être au moins égal au nombre de boîtes. Et le nombre de boîtes, c'est quoi? Si vous êtes entre 0 et 1 et que vous avez une précision epsilon, ça va être epsilon fois le nombre de dimensions. Donc, epsilon moins 1, parce que le nombre de boîtes de taille epsilon, c'est epsilon moins 1 entre 0 et 1. Donc, ça va être de l'ordre de epsilon moins d. Ça, c'est le nombre de boîtes. Puis, il vous faut évidemment plus de données, parce que dans chacune des boîtes, il faut suffisamment de données pour que vous ayez une forme de concentration et vous ayez une estimation de la probabilité de tomber dans la boîte. Donc, typiquement, le nombre de données, il va être grand devant epsilon à puissance moins d. Donc, vous avez une croissance exponentielle. Et à nouveau, si vous prenez pour d, même epsilon, quelque chose qui est pas petit, si vous prenez même epsilon égale 1,5, ou on va prendre un dixième. Un dixième, si vous prenez d égale 80, c'est le truc classique, 10 puissance 80, c'est plus grand que le nombre d'atomes de l'univers, donc c'est mort. D'accord? Vous n'allez jamais y arriver. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? C'est que si vous n'avez pas des hypothèses très, très fortes sur votre distribution de probabilité, vous n'avez aucune chance de réussir à résoudre le problème en grande dimension. Et c'est pour ça que jusqu'à relativement récemment, on n'a pas une seconde imaginé qu'on pouvait définir des distributions de probabilité de choses aussi compliquées que des visages, des protéines, etc., qui ont énormément de degrés de liberté. Donc, si on est capable, et qu'est-ce qu'on faisait en maths jusqu'à maintenant? Essentiellement, on prenait les modèles gaussiens et on les élaborait. Alors, il ne faut pas exagérer, il y a des processus bien au-delà des processus gaussiens qui ont été étudiés, mais disons qu'on est resté dans un domaine très confiné avec des classes de processus qui étaient assez simples et paramétrées de façon assez simple. Et puis, ce domaine a complètement changé, et donc, c'est ça qu'on va voir au cours de ces séances. Alors, la première stratégie, quoi la première stratégie ? Non pas la première, pardon, mais une stratégie qu'on ne va pas regarder, mais qui est fondamentale, c'est celle des grands modèles de langage. Donc, ça, c'est tout ce qui est autour des LLM, c'est les modèles autorégressifs, que je vais juste évoquer là pour expliquer pourquoi on ne va pas les regarder. Donc là, l'idée, c'est que les données, on commence par les quantifier, et c'est ce qu'on appelle... Alors, déjà, les données, elles vont être définies sous forme de séquences. Donc, il y a un ordre total, hein. Il y a une forme de séquence, et ça, évidemment, ça va être très important. Et le deuxième point, c'est qu'elles sont quantifiées, chacune des données est quantifiée, et c'est ce qu'on appelle un token qui prend, prend des valeurs finies. Donc, vous avez vos tokens qui sont comme ça, qui sont sous forme de séquences, et l'idée des modèles autorégressifs, c'est que une fois que vous avez une séquence, vous pouvez prendre le passé et essayer de prédire à partir du passé le token suivant, c'est-à-dire à partir d'une séquence de mots, vous voulez prédire le mot suivant. Et quand vous avez comme ça un modèle autorégressif, vous pouvez ensuite échantillonner si vous avez la distribution de probabilité d'un point étant donné le passé. Quand vous avez un exemple de passé, vous pouvez échantillonner cette distribution de probabilité. En sous-jacent, l'idée, c'est que on est en train de caractériser la distribution d'une série de tokens comme ceci, sous forme d'un produit, c'est-à-dire qu'on va le décomposer comme des produits, on va petit à petit le créer. Donc, si je pense à t comme étant la variable de temps ici, on va faire avancer le temps de t égale 1 à grand T, nombre maximum de points, et à chaque fois, je vais regarder la probabilité de xt, sachant xt moins 1, x1. Et je peux décomposer la probabilité jointe comme ce produit de probabilité conditionnelle. Résultat un peu plus classique. Alors, comment on démontre ça ? Bah, par récurrence. Vous commencez à prendre p de x1, xt, ça va être la probabilité de xt sachant P de X1, X2, XT moins 1, fois P de X1, X2, XT moins 1. Et puis ensuite, vous itérez cette décomposition conditionnelle, et puis vous allez ainsi obtenir ce produit. Donc, évidemment, l'enjeu ici, c'est qu'il faut être capable de modéliser ces probabilités conditionnelles. Et c'est là que arrive le miracle à nouveau des réseaux de neurones et plus précisément des transformers, où on arrive effectivement à calculer ce produit, cette dépendance conditionnelle. Et une des idées clés des transformers, c'est que pour aller regarder la dépendance, la grosse difficulté dans le cas du langage, c'est que la dépendance, elle peut être longue portée. Elle peut être longue portée parce que si vous avez une négation quelque part en tout début de phrase, ça peut changer le sens de toute la phrase et c'est un simple petit mot de lettre, nœud, par exemple, qui peut tout changer. Donc, il va falloir aller regarder éventuellement très loin, mais si vous regardez très loin, vous risquez d'avoir à nouveau une explosion combinatoire et donc vous avez toute cette technique de calcul de contexte avec les matrices, queries, keys, values, etc. Alors, je ne vais pas rentrer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on va plutôt considérer des problèmes avec des données qui sont multidimensionnelles, qui vont être ce qu'on va rencontrer souvent en physique, dans les images, dans énormément de cas. Et là, le problème n'est pas très bien adapté à cette approche. Alors pourquoi ? Parce que si vous avez une image avec les différents pixels, il n'y a pas une manière naturelle de l'organiser sous forme séquentielle. Alors, bien sûr, on peut scanner l'image sous forme séquentielle, par exemple avec un parcours en zigzag, comme ça. Mais maintenant, si vous regardez le passé d'un point qui est ici, et que vous voulez regarder quels sont ces voisins naturels qui sont dans le passé, ben, les voisins naturels, ça va être ceux-là, disons les plus proches, et vous allez ignorer tout cela. Donc vous n'avez pas une information de causalité qui est naturelle, et ça, ça veut dire que quand vous allez construire vos modèles de probabilité, vous allez complètement dépendre du passage et vous n'allez pas utiliser la topologie naturelle, qui est une information très importante qu'on vous donne sur les images, c'est que l'image, elle vit sur une grille bidimensionnelle et non pas sur une grille monodimensionnelle. Alors, vous pouvez modifier votre passage avec un passage qui est comme ça, mais à nouveau, c'est complètement arbitraire et quand vous faites ça, vous détruisez la topologie de l'image et donc du coup, vous avez tendance à définir des modèles qui sont d'un peu moins bonne qualité. Alors, ça marche pas si mal, mais ça atteint pas, souvent pas l'état de l'art. Il y a des techniques pour faire des patchs autour de ça qui sont intéressantes, mais donc ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment regarder le problème multidimensionnel en utilisant toute l'information multidimensionnelle qui nous est donnée. Alors, du coup, quelles vont être les approches ? Et c'est ça que je vais essayer de résumer dans la dernière heure. Donc, on va commencer avec l'approche classique qui a été beaucoup le sujet du cours de l'année dernière, mais que je vais là traverser rapidement, simplement pour donner les outils de base qui vont nous être utiles après. Donc, c'est d'abord les modèles probabilistes. Probabilistes avec énergie de Gibbs. Donc ça, c'est les modèles qui sont à la base de la physique statistique. L'idée, c'est qu'on doit approcher P de X et apprendre P de X. Donc, le principe de base qui a été introduit il y a bien longtemps par Fisher dans un superbe article en 1923, ça va consister à essayer de définir une famille de probabilités paramétrées et d'identifier le paramètre qui va donner la meilleure approximation possible de P de X. Donc, si on se place dans ce cadre d'approximation paramétrée, la première question, c'est de définir cette famille. Alors, si vous considérez que le log des probabilités, les probabilités ne sont pas nulles, donc elles ont un log, à ce moment-là, on peut l'écrire sous forme d'une fonction exponentielle. Donc, vous allez avoir e puissance moins u θ de x, et puis ici, vous avez une constante qui va simplement normaliser l'intégrale à 1. Et du coup, la construction du modèle, c'est équivalent à construire ce fameux Uθ de x. Alors, pourquoi il apparaît ? On va voir que le log, c'est parce que, évidemment, le log de la probabilité va nous donner le moins Uθ de x moins Zθ. Et ce Uθ, en fait, il a le rôle d'une énergie en physique. Et si vous voulez trouver des événements qui sont probables, ça va revenir à minimiser cette valeur Uθ de x. Et donc, tout le problème, c'est de comprendre c'est quoi la forme du Uθ de x qu'on peut prendre, comment le paramétrer, pour être capable d'avoir une bonne approximation de P de x. Donc, il y a toujours dans ces problèmes quel modèle. Donc ça, on va évidemment retrouver ça constamment. Quel modèle, autrement dit, c'est quelle info a priori j'ai sur le système. Donc, en machine learning, vous n'avez pas d'informations a priori, pareil. Vous pouvez rien faire essentiellement parce que vous savez pas comment guider votre modèle. Donc, ça, c'est la question qui se pose. Et en physique, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui nous donnent les types de formes de Uθ qui peuvent être intéressants pour étudier différents systèmes. Et puis, évidemment, ensuite, la question, c'est comment choisir θ optimal. Et donc, pour ça, quelque part, on veut minimiser l'erreur entre la probabilité Pθ et P de X. Autrement dit, il faut une métrique sur les distributions de probabilité. Et il y a une métrique très naturelle qui est ce qu'on appelle la métrique de Kullback-Leibler, qu'on verra rapidement parce que ça, c'est quelque chose. Et cette métrique de Kullback-Leibler, on le verra, elle est équivalente à ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance, qui est à nouveau une notion qui a été introduite par Fisher dans son papier, qui a été essentiellement le papier fondateur des statistiques mathématiques. Et l'idée, essentiellement, ça va être de trouver le θ qui rend les observations xi les plus probables possibles. Donc, c'est une idée tout à fait intuitive. Vous voulez calculer la distribution de probabilité. Vous avez des exemples. Si ça, ce sont des exemples, c'est que quelque part, c'est des événements probables par rapport à votre distribution de probabilité. Et donc, vous allez chercher le θ qui va maximiser cette probabilité. Et on va voir que c'est équivalent à cette distance de Kullback-Leibler. Le point, évidemment, derrière tout ça, c'est qu'ensuite, il va falloir calculer le θ. Et donc, on a un problème d'optimisation. Et ce qu'on va voir, c'est que ce problème d'optimisation, il devient très compliqué dès que Uθ n'est pas convexe. Donc, si vous avez un Uθ de x, par exemple, dans le cas gaussien, on verra Uθ de x, c'est une gentille fonction convexe. Ça va être, par exemple, norme de x carré. Si vous prenez le bruit blanc là-bas, eh bien, Uθ, c'était norme de x carré sur 2 sigma carré. Donc là, je vais avoir aucun problème d'optimisation. Mais dès que vous avez des choses comme ça, avec des minima locales, ça devient beaucoup plus compliqué quand vous faites votre optimisation, parce qu'il va falloir créer des échantillons qui vont potentiellement se retrouver ici et ici, voir si ça est encore un peu plus bas. Et donc, il va falloir traverser ces barrières. Et ça, c'est le problème clé qu'on va rencontrer absolument partout. Alors, je vais rapidement, donc, la séance prochaine, passer sur ces techniques qui sont basées essentiellement, de façon classique, sur les chaînes de Markov et les algorithmes de Monte Carlo. Ça marche, mais que pour des problèmes simples. Alors, je vais passer ici. Donc, ça va être un cadre qui est le cadre, comme je disais, classique de la physique. Dans le cas de la physique, en fait, X, ça décrit l'état du système. Et c'est toutes les variables possibles du système. Et si vous avez un système qui est à l'équilibre, alors vous savez que sa densité de probabilité, P de X, c'est-à-dire la probabilité pour que le système soit dans l'état X, va dépendre de l'énergie du système exactement sous cette forme-là, P de X. Et donc, le problème qui consiste à apprendre la physique, eh bien, ça veut dire apprendre l'énergie. Si vous connaissez l'énergie, vous connaissez les forces, etc. C'est essentiellement, ça devient un problème de machine learning, comment approximer P de X à partir des échantillons. Et donc ça, c'est des exemples du plus simple au plus compliqué. Ferromagnétisme, c'est le cas où vous avez des spins qui peuvent être positives, négatives et qui vont définir la direction du magnétisme. Et suivant que si jamais les spins dans un sens dominent, vous allez avoir un champ magnétique qui va s'établir. Si les spins sont complètement désordonnés, vous n'allez pas avoir de champ magnétique. Donc vous avez besoin de savoir quelle va être la configuration des spins suivant la température. Et donc ça, c'est un problème typique que les matheux aiment bien, parce que ça, on comprend assez bien. Il y a des jolis problèmes de maths, mais c'est assez bien compris. Et puis, problème plus compliqué, c'est la toile cosmique. Toile cosmique, c'est là où s'agrège la masse dans le cosmos, les filaments que vous voyez, chaque point du filament, ça correspond essentiellement, disons, à une galaxie, si vous voulez avoir un ordre de grandeur des échelles. Et ce qu'on observe, c'est que la masse, elle s'agrège à cause des phénomènes gravitationnels et que ça définit ces géométries extraordinairement compliquées à l'intérieur du cosmos. On aimerait comprendre la géométrie, par exemple, ce genre de choses, ou de la turbulence. Donc ça, c'est, disons, ce que j'appellerais les problèmes classiques. Et puis, on va avancer vers des problèmes moins classiques, très rapidement. Et notamment, ça a été bien ouvert par les techniques de GAN et de ce qu'on appelle Generative Adversarial Network. Alors, en deux mots, puisqu'on regardera ça plus en détail, ça a été... C'est un papier de Goodfellow et al. Donc ça, c'est 2014. Et donc, l'idée essentiellement, c'est que vous allez avoir un générateur qui va être un réseau de neurones qui, par exemple, à partir d'un bruit blanc, c'est-à-dire, on verra ça, c'est une image qui est complètement déstructurée, c'est la réalisation d'un échantillon de cette distribution de probabilité, va essayer de générer quelque chose qui ressemble au type d'image que vous voulez calculer. Et pour imposer ça, ce que vous allez avoir, c'est les images d'entraînement. Que vous allez sélectionner aléatoirement et que vous allez donner à un classificateur, qu'on appelle aussi le discriminateur. Et le classificateur, il va essentiellement avoir pour tâche de dire est-ce que X, c'est une vraie image qui provient donc de l'ensemble d'entraînement, ou est-ce que c'est une image qui est générée. Donc, est-ce que c'est une fausse image, ou est-ce que c'est une vraie image. Et vous allez avoir un espèce de combat entre les deux, c'est-à-dire que le générateur va essayer de tromper le classificateur et à chaque fois, le classificateur va essayer de faire au mieux. Donc, ce que vous allez avoir, c'est une fonction de coût. Donc, ça, c'est le discriminateur D de X. Et vous allez avoir une fonction de coût qu'on va optimiser, qui va se débrouiller pour que G de X s'approche le plus possible d'un générateur, d'une vraie image, et tout en imposant que le discriminateur soit le meilleur possible. On va voir exactement la forme de ce type de fonction de coût. Comme, en fait, on a un combat entre deux tendances, en fait, la solution, ça va être le résultat d'un point sel, et donc d'une optimisation qui n'est pas si facile. La grosse surprise, c'est que ça marche. Donc ensuite, il va falloir dire ce que ça veut dire « ça marche ». Mais disons, si vous partez d'un bruit blanc, vous avez une grande base de données, ça c'était fait par une équipe d'NVIDIA, vous partez d'un bruit blanc, à partir d'une base de données de Star d'Hollywood, vous arrivez à reproduire des nouveaux visages qui sont pas des visages dans la base de données et qui effectivement ressemblent à des visages. Et potentiellement de star, et vous voyez qu'il y a beaucoup de degrés de liberté, d'accord ? Les cheveux, ils peuvent bouger dans tous les sens, etc. Et puis, ce genre de choses ont ensuite été sophistiquées, c'est-à-dire que plutôt que de faire une image à partir de rien du tout, on peut éventuellement vouloir faire une image à partir d'une autre image. Et cette autre image, on va l'introduire comme un conditionnement. Donc, par exemple, en imagerie médicale, vous avez une modalité d'un CT scan ici, une modalité T1, et vous aimeriez avoir la deuxième modalité T2 que vous n'avez pas pour l'image en question. Donc ce qu'on donne en entraînement, c'est des images de la modalité T1 et T2, mais vous ne connaissez pas les paires, et puis ensuite c'est ground truth, c'est la vraie image, et on va essayer de synthétiser à partir du conditionnement T1 une image de la modalité T2 avec un GAN. Et on obtient des choses qui ne sont pas si différentes à nouveau du ground truth, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une transformation d'image à image, on arrive à faire de la prédiction d'une nouvelle modalité potentiellement en imagerie médicale. Ça a été aussi fait pour de la prédiction météorologique, donc ça date de 2021, c'est-à-dire il y a très très longtemps, et en 2021, on faisait de la prédiction à très très court terme, c'est-à-dire typiquement de l'ordre de 20 minutes. Alors, d'un côté, tout ça c'est très impressionnant, mais il y a des très fortes limitations. Et les très fortes limitations du GAN, c'est que dans un système comme ça, il n'y a rien qui force vraiment d'explorer toutes les données. C'est-à-dire que un des dangers, c'est ce qu'on appelle le mode collapse. Ça, c'est deux modes dans une distribution de probabilité. Donc, c'est deux domaines de forte probabilité, ici montrés à travers l'énergie. Vous risquez de synthétiser que des images d'un type 1 et pas les images de type 2. Après tout, si vous faites ça, vous allez avoir des belles images de type 1. Donc, le discriminateur, ça a fonctionné, le générateur, ça a fonctionné. Rien n'impose que vous exploriez toute la distribution de probabilité, c'est-à-dire la diversité. Alors, évidemment, il y a eu des choses qui ont été introduites pour contrecarrer ça avec des techniques plus ou moins efficaces en régularisant les GAN, mais ce problème n'a jamais été bien maîtrisé, ce qui veut dire que vous risquez de totalement ignorer une partie. Et ce genre de choses aussi, ça peut faire créer des formes de mémorisation et donc d'hallucination. C'est-à-dire que les structures que vous récupérez, c'est pas tellement des échantillons de la distribution de probabilité, mais c'est très biaisé par les données qui ont été utilisées pour l'entraînement, et vous risquez de reproduire des données qui en fait existaient dans l'entraînement. Et ça, je reviendrai là-dessus, c'est un des gros problèmes de généralisation de ces techniques, et c'est très, très problématique dès que vous les utilisez dans des vraies applications. Tant que vous voulez avoir des belles images, c'est pas grave. Si vous voulez utiliser ça pour du médical, ça devient un vrai problème. Si vous voulez utiliser ça pour de la météorologie, c'est un vrai problème parce que vous allez avoir des grosses erreurs qui, en fait, sont des artefacts de base de données d'entraînement. Et par ailleurs, c'est des techniques qui sont assez mal comprises parce que on le verra, quand on optimise cette fonction de coût, qu'on arrive au point sel, on a énormément de mal à effectuer cette optimisation proprement. Alors, si on regarde avec un peu de recul ce qu'on a fait, en fait, on est parti, dans le cas du bruit blanc, d'un bruit blanc, et puis le générateur l'a transformé, donc si j'appelle le bruit blanc Z, en une image X. Donc, en quelque sorte, ça fait un transport depuis la distribution bruit blanc, là, que je représente en deux dimensions, qui est donnée par ma gaussienne centrée en zéro. Les points rouges, c'est les réalisations, donc les exemples d'entraînement, qui ont été transportés dans la distribution de X, la vraie distribution. Ici, en 2D, j'ai deux variables, X1, X2, qui peut être assez biscornue, se concentrer sur des structures dans une sous-partie de l'espace. Et donc, d'une certaine manière, on a appris le générateur. Le générateur, ici, c'est le transport. D'accord ? Donc maintenant, on peut prendre un peu de recul et se dire, OK, bon, bah, on va essayer d'estimer des transports. Quel type de transport, dans quelle classe de transport je vais aller les chercher, et évidemment, ça va être à nouveau guidé par de l'a priori, et quel type d'a priori j'ai pour le faire. Alors, dès qu'on aborde transport, le mot transport, on pense immédiatement, si on a fait des maths, transport optimal. Transport optimal, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que vous allez définir un transport qui envoie x à t de x, mais ce transport, a priori, il n'est pas unique. Je peux bouger, si je reviens ici, ce point rouge, je peux le bouger sur ce point bleu, ou ce point rouge, je peux le bouger sur ce point bleu. Je peux faire n'importe quelle permutation, ce sera toujours un transport admissible qui va me définir le transport d'une densité dans une autre densité. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir ce transport? Eh bien, par exemple, on peut minimiser une fonction de coût. Et l'idée du transport optimal, c'est de minimiser la distance entre x et t de x s'ils appartiennent au même espace. Et par exemple, vous pouvez prendre une distance L2. Alors, Je vais le mentionner juste pour donner le cadre, parce que ça, on ne va pas l'utiliser, parce que ce n'est pas du tout une technique qui amène vers des algorithmes qui fonctionnent bien en grande dimension, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a des recherches là-dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas des techniques efficaces, mais ça donne un cadre pour comprendre un peu le fait que, effectivement, T de X, ce n'est pas une fonction qui est unique. Alors, quel genre d'algorithmes ont été développés ? Les algorithmes qui ont suivi les techniques de GAN, c'est les algorithmes de ce qu'on appelle de normalizing flow. Et l'idée de ces algorithmes, c'est de dire, OK, j'ai un transport global, c'est une fonction a priori très compliquée. Ce que je vais faire, c'est que je vais le factoriser comme une série d'opérateurs que je vais composer. Et chacun de ces opérateurs T1, θ1, θ2, TK sont des opérateurs paramétrés relativement simples. Et ce que je vais faire, c'est structurer ces opérateurs de manière à ce que l'optimisation que je vais devoir faire pour être capable d'imposer que j'ai bien un transport, parce que évidemment, le but, c'est de passer de ma distribution P0 à la distribution P1. Donc, ce qu'on dit, si j'ai un transport comme ça qui envoie la variable Z dans la variable X, on dit que P1, c'est ce qu'on appelle le push forward de P0. C'est-à-dire, c'est le transport de la mesure de P0 par l'opérateur T. Ce qui va être imposé, c'est que P1 produise une distribution de probabilité qui va maximiser la vraisemblance, qui est là-bas, des données qui sont dans notre base de données. Donc, ça, c'est une approche qui est intéressante d'un point de vue mathématique parce qu'elle arrive à faire le lien avec, disons, des techniques plus classiques d'échantillonnage où on va devoir maîtriser les distances de Kullback-Leibler. En même temps, c'est des techniques qui ont du mal à passer en grande dimension parce qu'on a du mal à bien comprendre comment structurer ces opérateurs θ1, θ2, θk. Autrement dit, ce qu'il va falloir injecter dans ce genre de technique, c'est de l'information a priori. Alors, en même temps, on peut quand même faire de la synthèse de visage, ça c'est extrait d'un papier, avec ce genre d'algorithme, donc malgré tout, ça marche pas mal. L'étape d'après, ça va consister à essayer de comprendre, et c'est ça qui va nous amener vers l'état de l'art et vers les algorithmes de score diffusion, c'est de comprendre comment on va pouvoir finalement tronçonner cet opérateur T en composition d'opérateurs. Et l'idée, c'est qu'au lieu de prendre des opérateurs discrets comme ceci, on va définir une variable continue de temps et on va construire T par une composition de plein de petits opérateurs élémentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se retrouve dans le domaine des équations différentielles. C'est-à-dire que comment je vais bouger X, autrement dit, comment je vais transporter X, ben, je vais le bouger petit à petit. Autrement dit, je vais définir une équation différentielle par rapport à cette variable de temps qui va définir le mouvement de x, autrement dit le transport, avec une équation différentielle. Et évidemment, ici, ce que j'ai, c'est la vitesse de déplacement de x. D'accord ? Donc là, c'est véritablement un transport, on le voit bien, et on va essayer de voir quel genre de vitesse. Alors, à nouveau, là, pourquoi on bouge dans cette direction ? C'est parce qu'on veut essayer de simplifier le problème en tronçonnant et en définissant des petits problèmes ici élémentaires plus simples, et on va essayer d'injecter de l'information a priori sur ces petits transports élémentaires, autrement dit ces vitesses. Donc la première chose, ça va être de comprendre quel est le lien entre cette équation différentielle ordinaire et le transport de la mesure de probabilité, et ça c'est l'équation de Liouville qui va de la probabilité qui va nous faire ça. Et puis, on va voir que ce type de transport est un peu trop restreint, notamment pour qu'il existe une solution de cette ODO, équation différentielle ordinaire. Il nous faut que la vitesse soit Lipschitz. Et ça, c'est une contrainte qui parfois, disons, en tout cas sur le numérique, va être plus compliquées à imposer. Et donc, on va passer dans le monde des équations différentielles stochastiques qui vont nous permettre d'avoir un transport qui est plus irrégulier. Autrement dit, au lieu qu'une particule bouge et atterrisse sur une autre particule, donc X, qui est une particule, va petit à petit bouger dans l'espace, part d'un temps zéro pour arriver au temps 1 comme ceci. Ça, c'est un transport déterministe. On va définir des transports probabilistes, c'est-à-dire qu'à tout moment, la particule, elle peut diverger et à la fin, elle peut arriver à plein d'autres endroits possibles avec des probabilités différentes. Et ce qui va la faire diverger, c'est un terme de bruit qui apparaît ici, qui est du bruit blanc. Autrement dit, la mesure de Wiener. Et là, ce qu'on va voir, c'est que si on définit comme ça un transport stochastique, eh bien la distribution de probabilité à nouveau va être transportée avec une équation différentielle déterministe, ordinaire, qui est l'équation de Fokker-Planck, qui introduit un terme de diffusion. Alors, là, on n'est pas très très loin à nouveau de ce genre de problème de départ ici. Notamment, ce qu'on va voir, c'est que ce genre de technique, c'est une technique... Ça aboutit à une technique très classique pour échantillonner une distribution de probabilité. Si vous voulez vous assurer que vous partez d'une distribution P0 et que vous arrivez à une distribution P1 qui est la bonne distribution en itérant sur cette équation, c'est que si vous continuez à itérer sur cette équation, normalement P1, elle ne doit pas changer. Autrement dit, P1 doit être un point fixe de votre équation. Et donc vous pouvez essayer de voir si vous voulez que votre mesure invariante, autrement dit, la mesure d'arrivée, ce soit P de X, eh bien, quelle doit être la condition sur la vitesse? Et vous allez voir que la condition sur la vitesse, c'est que la vitesse soit le gradient du log de probabilité. Et ça, on appelle ça le score. Et ça nous amène aux algorithmes de score diffusion. Donc ça, c'est d'une certaine manière le background classique qui nous vient de la physique et qui vient des simulations standards distribution de probabilité. L'idée supplémentaire qu'on va rajouter là-dessus, c'est que finalement, ce qu'on veut, c'est un transport qui va par exemple nous mener d'un bruit blanc, c'est-à-dire une distribution gaussienne circulaire, vers notre distribution. Ben, ce qu'on peut essayer de faire, c'est construire cette transformation comme étant l'inverse de la transformation inverse qui nous mène de ici à ici. Alors là, en apparence, on peut avoir l'impression que c'est aussi difficile de faire ce chemin que ce chemin. En fait, pas du tout. Ce qu'on va voir, c'est que ce chemin qui consiste à aboutir à du bruit, en fait, il est très simple. Il suffit d'ajouter du bruit. Autrement dit, ça, c'est l'idée qui a motivé tout le travail de Yan Song et ses collaborateurs pour les algorithmes de score diffusion. Vous partez d'une image. Donc ça, c'est une image, c'est la réalisation de P de X. C'est un X, un exemple de X qui correspond à un point d'arrivée ici. D'accord? Et je vais partir d'un X0 qui est une réalisation d'un bruit blanc. Ça a quoi comme tête, un bruit blanc? Un bruit blanc, c'est ça. D'accord? Une réalisation d'un bruit blanc, c'est cette tête-là. Donc, comment je fais pour aller de là à là? Il y a une manière pas très compliquée de faire ça, c'est tout bêtement d'ajouter du bruit jusqu'à ce que l'image soit complètement noyée sous le bruit. Et puis, il faut quand même renormaliser petit à petit pour que la composante de l'image disparaisse et on aboutit à cette équation différentielle stochastique qu'on appelle l'équation d'Einstein-Uhlenbeck, qui est l'équation la plus simple, qui consiste essentiellement à prendre x, et petit à petit ajouter du bruit et puis atténuer, c'est ce qu'on appelle une équation de diffusion. Alors, maintenant, on a le chemin, maintenant il suffit de l'inverser. Donc la question, est-ce qu'on peut passer du bruit et revenir à l'image? Et ça, a priori, on se dit non, c'est pas possible, et en fait, si. C'est-à-dire que si vous avez une équation différentielle stochastique comme ça, on sait qu'il existe un inverse. Ça veut dire quoi un inverse? Ça veut dire qu'on va inverser la direction du temps, d'accord? Et on va essayer, quand on bouge dans la direction inverse, d'inverser chacun des petits opérateurs élémentaires qui se trouvent ici. Et on va faire le calcul, Et ce que vous allez voir, c'est qu'on aboutit à une équation qui ressemble à l'équation de Langevin, où pour bouger de x t' plus 1 à t', où t' c'est le temps inverse, eh bien, il va falloir essentiellement le même type d'équation, sauf qu'on a un terme qui apparaît ici, qui ressemble au terme qu'on a vu avant, qu'on appelle le score, qui est le gradient de la log probabilité. Donc, mathématiquement, tout ça, c'est exact, et on va comprendre d'où ça vient. Donc, mathématiquement, pas de problème, je peux le faire. Sauf que j'ai un petit hic ici, c'est qu'il va falloir calculer ce fameux terme, le gradient de la log probabilité de la distribution à chacun des temps t. Et ça, bah, c'est une fonction en grande dimension. Ce n'est pas simplement une fonction, c'est un gradient. Donc ça veut dire que si j'ai en dimension d, j'ai des fonctions que je vais apprendre. Donc a priori, à nouveau, ça, on s'est toujours dit, c'est sans espoir dès que vous avez un problème en grande dimension. Et la grosse surprise, et c'est ça vraiment le résultat assez spectaculaire qu'ils ont obtenu, c'est que si vous mettez un réseau de neurones, à nouveau, miracle, on arrive à apprendre le score. Alors, c'est quoi l'idée derrière l'apprentissage du score? C'est d'observer qu'en fait, apprendre le score, en fait, qu'est-ce qui va vous faire le score? Bah, le score, c'est ce qui va vous permettre de partir d'une image bruitée en t' plus 1, autrement dit, vous allez petit à petit débruiter votre image. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire essentiellement, c'est qu'on prend un problème où vous avez une image qui a été bruitée, avec un bruit d'un certain niveau de variance, et tout le problème, c'est d'enlever le bruit. Enlever le bruit, ça veut dire construire un estimateur x chapeau de x à partir de l'image bruitée. Et il y a un résultat standard qui date des années 60 de plusieurs personnes. C'est le genre de résultat qu'on Twitty, Miyazawa, Roberts l'ont publié à peu près ou l'ont découvert à peu près en même temps, qui observait, on va le démontrer, c'est une intégration par partie qui s'écrit en trois lignes, qui montre que si vous voulez effectivement minimiser l'erreur, autrement dit l'erreur au sens des moindres carrés, la différence entre l'estimateur et le vrai x au carré, eh bien, c'est équivalent, la solution de ce problème, c'est tout simplement, ça consiste à prendre l'image bruitée et de bouger dans la direction de la log probabilité. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une descente de gradient. On est en train de faire une descente de gradient de manière à maximiser la probabilité, ou une ascendant, un gradient ascendant de manière à maximiser la probabilité. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est le gradient de la log probabilité. On peut démontrer que ça, effectivement, c'est pas simplement quelque chose qu'il faut itérer. En un coup, on peut le faire si on connaît ce fameux score, c'est-à-dire le gradient de la log probabilité. Donc maintenant, on sait que les deux problèmes sont équivalents. Calculer le score, c'est équivalent à minimiser. Et donc là, on peut introduire notre réseau de neurones. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va prendre un réseau de neurones avec les poids, les différentes couches, l'architecture que vous voulez. On va lui mettre en entrée l'image bruitée, c'est-à-dire XT. On va calculer à la sortie, on va lui imposer qu'à la sortie, il calcule une image X chapeau. Et on va faire une fonction de coût qui va le forcer à minimiser l'erreur entre x chapeau et x, qui est la vraie image qu'on garde. En quelque sorte, c'est la partie labellisée, supervisée de l'apprentissage. Et on va lui demander de minimiser cette erreur. D'accord? Donc ça, c'est essentiellement un apprentissage supervisé parce que vous donnez xt en entrée, mais vous voulez qu'il se rapproche de la vraie image qui est l'image X. Et la question, évidemment, c'est est-ce que ça va marcher? Calculer le score, c'est équivalent à obtenir l'estimateur optimal parmi tous les estimateurs possibles, et a priori, il n'y a aucune raison que ce réseau de neurones y arrive. Et là, à nouveau, la surprise, c'est qu'il y arrive et qu'il semble y arriver très bien. Alors, ça, par exemple, donc vous en avez vu plein des images comme ça. Si vous allez sur DALI, c'est ce genre de techniques qui sont utilisées avec des trucs pour rendre ça plus efficace. Mais ça, c'est par exemple des images de chambres à coucher qui sont créées par transport à partir d'un bruit blanc, à partir d'une base de données de chambres à coucher. Donc, quand on regarde, c'est assez impressionnant. La qualité des images est impressionnante. Mais il y a toujours une question qui reste quand même derrière l'esprit, c'est est-ce qu'on est en train de créer vraiment des vraies images ou est-ce qu'on est en train de prendre la base de données d'origine, d'extraire quelques patchs, parce que quand même, pour réussir à faire un lit avec des coussins, etc., c'est très structuré, très compliqué. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de prendre les lits, les coussins, etc., de la base de données, de les mélanger de façon un peu intelligente pour produire des nouvelles images, auquel cas, les images qu'on apprend, elles dépendent complètement de la base de données. Or, on n'est pas du tout dans ce cadre probabiliste normalement. Les bases, pour n'importe quel entraînement, on doit être capable de calculer une distribution de probabilité qui ne va pas dépendre de l'entraînement. Ça, c'est la problématique de la généralisation. Donc, autrement dit, est-ce qu'on est vraiment en train d'apprendre une distribution de probabilité ou est-ce qu'on est simplement en train de faire des jolies images par agrégation? Alors ça, c'est typiquement les réseaux qui sont utilisés. Souvent, c'est des UNET. Alors, je le montre parce qu'on gardera ça. Vous voyez qu'on part de l'image qui est en haut à gauche. Petit à petit, on réduit sa taille et on va voir que ça, c'est un peu comme un paramètre d'échelle. Et puis ensuite, on remonte de l'autre côté et on produit une image de sortie avec des opérateurs convolutionnels, des relus, des batch norms, etc. Là-dedans, ça, c'est pour des petites images, 80 par 80, vous avez de l'ordre de 7 millions de paramètres. Donc, c'est tout petit par rapport aux réseaux qui sont utilisés pour les images que j'ai montrées. Donc, ce qu'on va essayer de faire, et c'est un peu le but, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est complètement le but de tout le cours, c'est de comprendre les principes mathématiques qui sont derrière tout ça. Donc, ce que je vais introduire, c'est pas les détails des algos, les détails des architectures, etc. Pour ça, il y a des très bons cours qui le font. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est vraiment les idées principales et c'est les principes, c'est-à-dire les propriétés mathématiques de ces algorithmes. Et une des question fondamentale dans n'importe quel problème d'apprentissage, c'est de savoir est-ce qu'on est en train de généraliser ou est-ce qu'on est en train de faire des choses qui dépendent complètement de la base d'entraînement. Généraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de calculer un estimateur de la probabilité à partir de données initiales. Ça veut dire que quand on change les données initiales, l'estimateur, il doit pratiquement pas changer si j'en prends toujours suffisamment. D'accord? Donc, ça veut dire que la variance de l'estimateur doit converger vers zéro quand le nombre de données est suffisamment grand, et en particulier dans le régime dans lequel on espère qu'on est déjà dans le régime de convergence. Alors ça, c'est des choses qu'on peut tester. Donc, comment on teste un truc pareil? Eh bien, on prend des images, on divise la base de données en deux, on va entraîner le réseau, un premier réseau avec la partie de gauche, hein, et on va entraîner la même architecture avec la partie, les autres données qui appartiennent à l'ensemble S2, et on va regarder si ça donne le même résultat. Si ça donne le même résultat, c'est bon, ça a généralisé. Si ça donne pas le même résultat, c'est qu'il y a un problème. Alors, au départ, on va commencer naïvement, je prends une seule image d'entraînement, d'accord? Et ensuite, je donne un bruit blanc, j'entraîne mes deux réseaux avec une seule image, je leur donne à tous les deux le même bruit blanc, et puis j'implémente l'équation de score diffusion inverse et je regarde ce que ça me donne. Et ça me donne deux images qui ne sont pas du tout les mêmes. Non seulement ce n'est pas les mêmes, mais on n'est pas très surpris, c'était tout bêtement les images que j'avais données pour l'entraînement. Autrement dit, tout ce qu'il a fait, c'est de mémoriser. Même chose, je prends 10 images dans ma base de données d'entraînement de gauche et 10 images dans ma base de données d'entraînement de droite. J'essaye, ça ne marche pas, les deux images sont différentes et si je regarde, eh ben, je peux les retrouver dans la base de données. Donc, ça ne généralise pas. 100 images, même phénomène. Les deux réseaux ne donnent pas la même image et on les retrouve dans les bases de données, ça mémorise. 1000 images, pareil. Alors, les images, elles commencent à devenir un peu moins belles, ici, mais on les retrouve dans la base de données d'entraînement. Simplement, on a l'impression que là, il n'arrive plus parce qu'il y a trop d'images à bien mémoriser ce qu'il est censé mémoriser. 10 000 images, bah, c'est toujours pareil, ça devient un peu pire. Donc là, on commence à devenir franchement un peu pessimiste. Et là, 100 000 images, boum, il y a un phénomène assez impressionnant qui apparaît. C'est que les deux réseaux qui ont appris sur des images totalement différentes vous donnent la même image. Ça veut dire qu'il a vraiment estimé le bon score. La variance sur les scores est petite. Et effectivement, l'image qui a été synthétisée est plus du tout identique à l'image la plus proche dans la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça marche, et ça c'est quelque chose qui... Donc ça c'est un travail qui a été fait avec des gens au Flatiron dont je vous parlerai, et ça nous a beaucoup surpris parce que nous on était persuadés qu'en fait tout ce que ça faisait c'était de mémoriser. Et en fait non. Ça généralise. La seule chose, c'est que ça c'est des petites images et nous en a fallu 100 000, donc il faut beaucoup, beaucoup de données pour généraliser. Alors, généraliser, ça veut simplement dire avoir une petite erreur. La deuxième question, petite variance, mais quand vous avez un estimateur, il y a deux choses que vous voulez vous assurer, que vous avez peu de fluctuations, petite variance, mais aussi que vous avez un petit biais, autrement dit, vous avez bien convergé sur la bonne distribution de probabilité. Converger sur la bonne distribution de probabilité, c'est d'avoir le bon score. Avoir le bon score, on a vu, c'est équivalent à faire un débruitage optimal. Et alors là, fantastique, parce que on tombe sur tout un chapitre de maths complètement différent, qui a été tout le chapitre de maths qui a été développé depuis les années 50 jusqu'aux années 2000 sur comment on fait du débruitage. Et alors, c'est ça qui est intéressant dans ce domaine, c'est que vous allez voir arriver des maths de type très différent. D'un côté, transport optimal, équation différentielle stochastique, et puis boum, là, on va se retrouver dans un autre domaine des mathématiques, qui est l'analyse harmonique. Alors pourquoi? Pour faire du débruitage, si vous avez fait du traitement du signal, la façon la plus simple, c'est quand vous avez une image, beaucoup d'énergie aux basses fréquences, on élimine les hautes fréquences, on garde les basses fréquences, on obtient une image floue, mais avec moins de bruit. Ça, c'est la technique qu'on appelle de filtrage Levinaire, qui est une technique qui s'implémente en Fourier. Alors ensuite, dans les années 80, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux en implémentant des opérateurs non linéaires. Et là, ça a consisté à réaliser que finalement, au cœur du problème de débruitage, c'est bien un problème de représentation de données. Et ce qu'il va falloir, c'est construire des représentations parcimonieuses des données. Et on fait ça potentiellement dans des bases orthogonales. Et donc, on s'est posé les questions, quel type de base, c'est là que sont apparues les bases d'ondelettes, curvelettes, bandelettes. Et on a commencé à se poser les questions, est-ce que tout ça, c'est optimal? En fait, les réseaux de neurones arrivent à faire beaucoup mieux que tout ça. Et donc, un enjeu de la recherche, c'est de comprendre pourquoi et finalement, quel est le lien. Si vous regardez la recherche dans ce domaine, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est à l'extérieur du réseau de neurones, c'est-à-dire une fois qu'on a compris que le réseau de neurones nous donne le score, boum, les maths, on les comprend. C'est pas très simple, mais c'est des maths qu'on maîtrise bien sur les équations différentielles stochastiques. Mais il y a un miracle qu'on cache soigneusement dans le numérique, c'est qu'effectivement, le réseau de neurones, il est capable d'apprendre le score. Et ça a été ça la surprise. Et actuellement, on comprend très, très mal ce problème. Ça, c'est vraiment la question qui est ouverte. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même rentrer dans cette question. Le but de ces cours aussi, c'est de vous exposer à la recherche et donc de voir un peu quels sont les enjeux derrière ces questions qui sont très peu abordées. Et donc, on regardera tout ça. Alors ça, je vais sauter pour avoir le temps. Et on finira, peut-être, ça dépend si j'ai le temps, sur des algorithmes un peu plus sophistiqués, notamment les algorithmes qui consistent à conditionner l'apprentissage. Et l'idée un peu de base derrière ça, c'est que si vous voulez apprendre, comme je l'ai montré par exemple, pour les changements de style, pour calculer, prédire une image à un temps T plus 1 à partir d'une image à un temps précédent, donc on va calculer une probabilité conditionnelle, c'est d'utiliser la règle de Bayes et de dire, prédire une image X à partir d'une information, par exemple de classe, c'est la même chose que prédire la classe étant connue X fois P de X divisé par P de C. P de C sachant X, ça c'est un classificateur. P de X, c'est une génération inconditionnelle. Et donc, on voit qu'il y a de ces deux composantes qui apparaissent en sous-jacent. Et on discutera un peu de tout ça. Très belle application de tout ça, c'est la météorologie. Il y a un colloque le 5 mai qui va se tenir au Collège de France sur cette thématique. Météorologie, climatologie, donc pour ceux intéressés. Il y a toute une série de séminaires. Donc ça, c'est le programme des séminaires. Donc comme vous allez le voir, les deux premières séances, donc ça va commencer juste après, c'est la présentation des challenges. Donc c'est ces problèmes de classification supervisée qu'on vous propose cette année de résoudre pour les étudiants de master notamment qui sont intéressés d'avoir une note pour valider le cours. Donc il y a 11 challenges qu'on va présenter au cours des deux premières séances. La troisième séance, ça va être la présentation des prix des challenges de l'année dernière. L'intérêt, c'est que vous allez avoir des exposés d'étudiants, d'ingénieurs qui ont réussi à obtenir des très beaux résultats sur ces challenges qui sont des challenges vraiment soit industriels, qui viennent du monde économique, de la santé, etc. Toutes sortes de sujets, vous verrez, pour voir un peu le genre de stratégie qu'ils ont adopté. Et c'est assez intéressant de voir ça pour préparer votre propre travail. Ensuite, il y aura une série à partir du 5 février de 5 séminaires qui vont être des séminaires plutôt de recherche, qui vont vous montrer le type de questions de recherche que on aborde à l'interface des maths et de ces techniques de génération d'IA. Donc Gabriel Perret, qui est directeur de recherche au CNRS, qui parlera du transport optimal justement et de ces algorithmes génératifs. Valentin de Bortoli, qui était au CNRS, qui est maintenant chez DeepMind, qui va travailler, vous parler des très grosses applications qu'il développe sur les algorithmes de score diffusion. Il y aura un break le 19 février, qui est la première semaine des vacances de février. Ensuite, Tony Bonner vous parlera de la dynamique de ces algorithmes de score diffusion, et vous verrez que derrière cette équation stochastique différentielle, il y a des comportements très intéressants, notamment pour aller dans un mode ou dans l'autre, avec des phénomènes qui sont assez étonnants. Ensuite, on regardera des applications aux problèmes inverses. Ça, c'est des problèmes fondamentaux, c'est-à-dire c'est les problèmes où vous avez par exemple une image dégradée, vous voulez inverser la dégradation, vous avez des mesures physiques, vous voulez estimer une autre quantité, etc. Lui est professeur à l'École Polytechnique et Eric Van Den Heijden fera le dernier séminaire. Lui, il est professeur à New York University, au Courant Institute et actuellement en France, et qui parlera des techniques de prédiction et d'interpolation stochastique pour faire du transport entre n'importe quelle distribution et n'importe quelle distribution. Dernière semaine, ce sera les oraux pour les étudiants qui veulent valider ce cours sous forme pour un master. Alors, juste une annonce, il reste encore 10 minutes. Pour quelqu'un qui serait intéressé, je propose un stage de master avec une thèse essentiellement autour de ces sujets. Donc, c'est un problème de prédiction météorologique avec ces techniques de score diffusion, avec une approche de maths appliquée, c'est-à-dire l'enjeu, ça va être de comprendre ce qui se passe derrière. Donc, les algorithmes, ça va être ce monde de score diffusion. La prédiction météo, ça veut dire mettre en jeu des problématiques numériques qui sont assez importantes, et ça se fera en collaboration avec le CEREA, qui est à l'École des Ponts, qui sont vraiment des spécialistes de la météo, et donc on regardera le lien avec les approches multi-échelles. Tout ça se passe à l'École normale supérieure, donc dans le 5e arrondissement. Et donc, si vous êtes intéressé, d'ici vendredi, parce que en fait, je dois faire ça très rapidement, je suis très en retard. Vous m'envoyez un mail avec votre CV et deux noms de personnes que je peux éventuellement contacter comme référent. Voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez un mail. Alors, on va finir sur les challenges. Donc, les challenges de données. Alors, d'abord, pardon. Il va y avoir des notes du cours. Et je vais mettre des références d'articles. Et ça, c'est le nom du site web où vous pourrez récupérer toutes les informations. Il y a en particulier, et je tiens à le remercier à nouveau, Jean-Éric Campagne, qui est ici, qui chaque année fait des notes de cours. Et ça, c'est extraordinairement précieux parce que ça permet d'avoir sous forme écrite l'équivalent du cours. Et surtout, quand il a le temps, il donne des simulations numériques, des morceaux de software, etc., qui permet de reproduire les résultats. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux. Et je le remercie à nouveau. Et c'est disponible sur ce site web. Et puis, vous le verrez ensuite affiché sur le Collège de France. Et enfin, les challenges. Donc, les challenges, vous avez cette plateforme de challenge, challengedata.ens.fr. Et pour les étudiants donc de master, que ce soit MVA, PSL ou les autres masters qui veulent valider le cours, la première chose, il faut que vous vous inscriviez. D'accord ? Donc ça, il faut que vous le fassiez cette semaine. Vous envoyez un mail à dominique.bidois@collegedefrance.fr. Le sujet du mail, vous marquez inscription et vous incluez votre nom, le nom de votre master et le mail du secrétariat du master. Alors, ces challenges, je vais rentrer maintenant un peu plus dedans. Vous pouvez les faire soit seul, soit en binôme. Et je vous mets pas plus que deux, pas trois, parce que trois, trop compliqué. Deux, donc je vous conseille quand vous pouvez être deux, parce qu'ils sont souvent assez riches, assez compliqués. Donc, ce qu'il va vous falloir faire, c'est d'abord créer un compte sur la plateforme, vous inscrire au cours, vous verrez, il y a le cours qui est là, et quand vous inscrivez au cours, vous allez pouvoir choisir un des challenges qui est associé au cours. Donc, un challenge, c'est quoi ? C'est un problème de classification, de régression supervisée. Donc, vous avez des données X, et on va voir immédiatement, à partir de 11h15, qu'on va commencer une série de 6 premiers challenges. Ça peut être de types de données totalement différents. Et à chaque fois, ça correspond à un problème réel qu'on vous propose de résoudre. Et là, on est dans le cadre de la classification supervisée. Donc, vous, ce qu'il vous faut faire, c'est calculer une prédiction. Ça peut être avec une simple régression linéaire, ça peut être avec un super réseau de neurones avec transformer, à partir des données X, et vous voulez minimiser l'erreur par rapport aux vraies données. Dans le challenge, on va vous donner la métrique qu'il va vous falloir optimiser et qui va être utilisée pour classer les résultats. Donc, de façon classique, vous allez avoir des exemples d'entraînement que vous allez utiliser pour optimiser votre classificateur, autrement dit l'apprentissage, et vous allez avoir des exemples de tests. Et les exemples de tests, on va vous les donner. Et ce qu'il faudra, c'est que avec votre algorithme, vous calculiez une estimation de la réponse et que vous le soumettiez à la plateforme. Et la plateforme va vous renvoyer votre score, sachant que évidemment vous ne connaissez pas la vraie réponse, mais par contre la plateforme la connaît. Et ce score va vous donner une indication de la performance relativement à d'autres. Vous avez un leaderboard qui vous permet de vous comparer. Alors, il y a un certain nombre de contraintes quand même qu'on impose, de manière à éviter que vous appreniez, en faisant des millions de soumissions, les données de test. On va limiter le nombre de soumissions par jour, et donc c'est 2 soumissions par jour. Par ailleurs, pour vous faire réaliser que vous avez fait du surapprentissage ou que vous n'en avez pas fait, le score final, il va être donné le 15 mars sur des données cachées qui n'ont jamais été utilisées pour le test. Donc là, vous aurez votre score final qui va permettre d'éviter tout type de surapprentissage. Alors, pour aborder ces problèmes, ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'adopter une méthodologie scientifique et pas simplement faire du hack de manière à optimiser le score. Alors, cette méthodologie, il y a un bel exposé qui a été fait par Pierre Courtiol, que vous allez retrouver sur le site du Collège de France. C'est le séminaire du 21 février 2018. Donc, si vous allez sur le site, vous regardez le cours de 2018, le séminaire, vous allez tomber dessus. Et lui, c'était un master de Kaggle. Donc, Kaggle, c'est la plateforme internationale de challenge. Et il vous donne un peu le type de stratégie pour à la fois bien avancer, en même temps obtenir éventuellement de très bons scores. De façon générale, les choses de base, ça consiste d'abord à regarder les données, c'est-à-dire les plotter, regarder un peu la structure pour comprendre un peu la nature du problème et là où il y a des chances d'avoir de l'information, de commencer par des choses très simples. Et là, je vous assure que c'est le cas, il y a un certain nombre de challenges qui ont été gagnés en faisant de la régression linéaire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas où finalement il n'y a pas beaucoup de données, où les problèmes sont très complexes et on fait essentiellement de l'overfitting quand on commence à utiliser des techniques qui sont plus compliquées. Et passer du simple vers le compliqué, ça permet de comprendre la nature du problème et notamment des informations a priori. Regardez la littérature, vous pouvez implémenter n'importe quel type d'algorithme, mais ce qu'on va vous demander, c'est un vrai travail scientifique et il y aura une soutenance orale où on va vous demander d'expliquer votre approche, votre algorithme, d'analyser les performances de votre algorithme et tout ça avec un rapport écrit qui sera remis au moment de la soutenance. Donc les oraux, et ça à nouveau, c'est uniquement pour les étudiants de master qui veulent avoir une note, ce sera le mercredi 19 mars. Et il y a une condition en plus, c'est d'assister aux deux tiers des cours. Autrement dit, il ne suffit pas simplement de faire le challenge pour valider le cours, il faut suivre le cours. Voilà. Donc, ça, c'est les conditions pour ceux qui veulent une note. Alors, dernière minute, pour ceux qui veulent, comme vous avez tous fait des mathématiques, vous êtes tous des bons cobayes. Il y a une expérimentation qui est faite par Stanislas Dehaene pour essayer de comprendre en quoi le cerveau des mathématiciens ou de ceux qui ont fait des maths est différent ou pas, et quelles sont les zones du cerveau que ça mobilise. Donc, si vous voulez vous faire scanner votre cerveau et avoir des belles images avec, vous envoyez un mail au participants.neurospin@cea.fr et vous ferez avancer la science comme ça grâce à votre cerveau tout en dormant dans l'IRM. Donc ça, c'est une manière de pratique de faire avancer la science. Et voilà, et je vous rappelle juste pour la fin de vous inscrire avec toutes les informations. Voilà, donc ça c'est la fin de cette première séance. Donc dans un quart d'heure, on se retrouve pour la première série d'exposés des challenges. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.